Le monde sont là, ils arrêtent pas vraiment de jaser, mais un moment donné, ils se font dire tchut. Fait que ok, c'est beau, ils sont prêts à comme nous endurer 2 minutes. Et on se met à compter un après l'autre et ça clique pas. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de conte, ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de conte. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez, il était une fois dans l'Est. Dans ce 23e épisode, je vais vous parler des gigs brunes. C'est quoi une gig? Une gig, c'est une expression qui est souvent utilisée par des musiciens, entre autres, c'est quand tu as un spectacle de prévu. Une gig, ça va être un peu l'ensemble du contrat. Ah, j'ai une gig dans un mariage, tu t'en vas jouer dans un mariage. Puis ah, j'ai une gig dans une école. Puis... Alors, les gigs brunes, ce serait des spectacles que tu as fait dans des contextes qui étaient vraiment pas idéaux. Ce serait pas mal une gig de marde pour affronter la chose d'une manière un peu frontale. Et moi, ça fait 12 ans que je compte et la plupart du temps, je compte dans un contexte que c'est moi qui ai généré à la petite grève. Alors, j'ai pas une expérience des gigs brunes qui est tellement élevée, contrairement à bien des chums conteurs-conteuses qui, eux, ont à dire oui quand le téléphone sonne parce que ils ont besoin de manger. Fait que si t'as une compagnie d'assurance qui t'invite pour faire un compte de Noël pour le party de Noël d'employés, t'as pas le choix de dire oui. Mais malgré tout, il m'est arrivé plusieurs fois en 12 ans d'avoir des bons apprentissages de terrain. Où est-ce que tu dis « Ah, ça, plus jamais ». Au fil du temps, tu viens qu'à peaufiner un peu ta manière de recevoir des appels, de faire ta soumission, d'avoir une liste de questions. OK, vous allez avoir combien de personnes, vous visez combien de public, à quel moment vous voulez que j'arrive, vous voulez combien de réunions avant qu'on fasse ce spectacle-là, il faut que je mette combien d'heures à jaser avec vous. T'as ton espèce de petite liste d'épicerie que tu passes qui te sert un peu à filtrer les gigs brunes, mais malgré ça, il y en a qui passent encore droite puis tu viens d'ajouter une ligne sur ta liste d'épicerie. La prochaine fois, je me referai pas avoir avec ça. La plupart du temps, les gigs brunes sont un peu attribuables à ton diffuseur, à la personne qui t'a engagé pour faire un spectacle, que ce soit le beau-frère de la mariée qui, pour le mariage, voulait un spectacle de conte puis t'a appelé, ou que ce soit une salle de théâtre ou une école ou une municipalité qui t'appelle pour faire le show de la Saint-Jean-Baptiste. Tous ces diffuseurs-là, finalement, des fois, je crois qu'ils n'ont pas une image qui est juste de ce que tu as à offrir. Ils ont peut-être un peu mal cerné ce que tu pouvais présenter. Moi, exemple, ils m'ont vu l'été dans un contexte de vacances. Ils ont bien aimé ma patente à la petite grève. Puis ils se disent, je vais offrir la même chose à mon beau-frère pour son mariage. Mais un mariage, ça sera peut-être pas le contexte idéal. Entre autres, un des contextes qui est vraiment pas bon pour moi pour du compte, c'est des lieux où est-ce que le public va être de passage seulement. Ça m'est arrivé de dire oui à ça sans comprendre ce qui m'arrivait. Et je me suis ramassé dans un chapiteau pour une espèce d'événement. C'était une levée de fonds. Et je crois que les gens marchaient pendant toute la nuit. C'était une espèce de petit marathon piéton. Et moi, on m'avait mis dans un chapiteau où est-ce que les artistes s'enchaînaient les uns après les autres. Et moi, j'avais une demi-heure ou une heure à faire au milieu de la nuit. Alors, je monte sur scène et je me mets à présenter mon affaire. À cette époque-là, je crois que j'avais juste des comptes longs. Donc, je commence un de mes comptes d'une heure. Et au fur et à mesure que je compte, je réalise que de un, il n'y a pas de chaise sous le chapiteau. C'est un grand chapiteau bleu et jaune. Ça fait peut-être bien 100 pieds de diamètre. Et moi, je suis sur une scène dans un coin, puis dans l'autre coin de ce chapiteau rond-là, 360 coins, il y a comme un stand à boisson. Il y a un genre de petit comptoir casse-croûte, lunch, bar. Et je constate que c'est le lieu où les gens qui marchent s'en vont prendre un break, ils viennent se récupérer quelque chose, reprendre un peu des forces et ils repartent. En fait, ils sont là pour 5 minutes. Et moi, on m'a engagé pour dire une histoire d'une heure, alors que les gens sont juste là pendant 5 minutes. Et je sais pas s'il y en a qui écoutent en ce moment qui ont vécu ça, mais les exposés oraux quand on était jeunes à l'école, parler d'un sujet qui, toi, t'intéresse pas devant du monde qui sont vraiment pas intéressés par ça, y a-t-il un meilleur moyen d'être mauvais? Moi, je me retrouvais drette dans ce contexte-là à le parler d'une histoire de laquelle il n'y avait aucune idée du début, du milieu, de la fin, parce qu'eux, ils ont juste pogné ces 5 minutes-là. C'est comme si tu rentrais d'une salle de cinéma pendant 5 minutes, venir pogner un bout de film puis que tu repartais et que c'est de même qu'on consommait du cinéma. Nécessairement, les films seraient différents si c'était ça qu'on faisait. Mais moi, on m'avait engagé pour ça. On avait mal ciblé c'était quoi mon contenu. Moi, j'avais mal posé mes questions. Et c'est ça que tu apprends à longue. Finalement, c'est jamais la faute du diffuseur. C'est tout le temps toi qui n'as pas saisi l'enjeu qui pouvait venir. Et par la suite, ben, tu te dis, OK, plus jamais je me ferai avoir. Maintenant, quand on m'appelle, je demande toujours c'est quoi le contexte d'écoute. Au même titre que maintenant, quand on m'approche, je demande toujours à la personne si je vais voir le public. Est-ce que je vais être dans un contexte où je vais voir le visage ou si je vais juste voir la face de la première rangée alors qu'il y a 30 rangées derrière? À plein de moments, je me suis retrouvé dans des contextes, même dans des salles professionnelles, où est-ce que on met des projecteurs qui t'éblouissent complètement. Donc, le public te voit bien toi, mais toi, tu vois pantoute le public. Et moi, je sais pas faire ça, parler à du monde que je vois pas. C'est pas là-dedans que je suis bon. Et autant ça m'est arrivé par des Zooms, en racontant sur Zoom avec un écran noir de l'autre côté devant 30 personnes que je sais pas c'est qui, puis ils ont pas activé le caméra, puis je compte devant un miroir finalement. C'est tous des contextes où ce que moi, je sais pas présenter un compte et j'espère plus avoir à présenter dans ces configurations-là. Il y a une fois, j'avais compté dans un festival où est-ce que justement, soir 1, je me ramasse sur le gros scène et je vois pas du tout le monde. J'ai aucune réaction du public parce que je suis complètement aveuglé et en plus, la première rangée est assise à comme 20 pieds parce que c'est vraiment une scène qui est élevée puis sinon, la première rangée va avoir le cou cassé à regarder dans les airs. Et après 5 minutes à compter, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas ça mon métier. Ça, je sais pas faire ça, moi, parler à ce monde-là. Le lendemain, le même festival me faisait raconter sur la même scène. Il allait avoir un band de musique avec moi pour accompagner le conte. Ce qui peut sembler une bonne idée si t'es disponible à ça. Mais moi, finalement, ce soir-là, j'ai choisi de compter dos au public. Je voulais compter à du monde que je voyais, puis les seuls que je pouvais voir, c'était le band qui était derrière moi. Alors, je m'ai tourné dos au public. Eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était mon dos, mes mains qui dépassaient de temps en temps de ma largeur d'épaule pendant que je gesticulais un peu. Et le public pouvait assister à des gens qui se font raconter une histoire. Et ça lui donnait un peu une posture de voyeur. Il y avait quand même de quoi d'intéressant là-dedans. J'en aurais peut-être pas pris pendant une heure si j'étais dans le public. Mais au fond, moi, c'est quoi mon geste si c'est pas de compter à du monde? Je trouvais ça important de mettre ça de l'avant puis de tenir mon bout. Alors maintenant, j'essaie de refuser ces contextes-là, même dans des festivals. Souvent, quand c'est un festival qui va te faire venir, ils vont essayer d'optimiser ta venue, puis tu vas faire 4 ou 5 prestations. Il va y avoir des petits contextes parce que tu as des petits groupes, mais tu vas souvent passer sur une des grosses scènes. Et bien, franchement, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Même des festivals spécialisés en conte font encore ça, des salles où on ne voit pas le monde. Et moi, c'est pas mon métier. Je suis pas dans cette veine-là de conteurs-conteuses qui savent occuper une scène avec brio et puis un aspect un peu plus théâtral, à savoir composer, se servir de l'éclairage, se servir de l'amplification. Pouvez-vous me mettre d'un coin où est-ce que je peux compter à mitaine? Moi, c'est à ça que je suis bon. On sera 3-4 puis je lui conterai les histoires, tu sais. Et une super gig brune que j'avais eue, c'était il y a 4 ans, je crois. J'étais en train de faire une genre de tournée à pied avec un groupe de conteurs-conteuses. Et on a arrêté dans un petit village. C'était ça le concept, on arrêtait dans plein de petits villages. Et toujours est-il qu'on est dans ce village-là et ils nous ont organisé une salle de spectacle qui allait être leur église, qu'ils ont transformée en bar, où est-ce qu'il y a de la bière qui est servie, puis on réalise vite fait que c'est un peu pour ça que le monde sont là. Les habitants sont là parce que c'est comme le party de la semaine. Ah bon, il y a du compte. Bon, OK, on va faire avec. Mais on venait pour la Molson Next. Et c'est dans une église. Alors, la personne qui va compter s'installe devant, là où ce que le prêtre serait normalement là. Et après, c'est plein de rangées de bancs d'église qui sont là et les spectateurs sont là. Et nous, on se place un peu comme sur le dernier banc, qui est peut-être genre la 4e rangée, là, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Alors, on est derrière du public. Puis quand c'est notre tour, la personne qui est en avant, elle s'en vient en arrière sur notre banc. Et puis, il y a quelqu'un qui part du banc pour aller devant. Bref, c'est le setup. Mais ça ne marche pas. La patente sonne hyper écho. La vibe est comme pas agréable. Le monde sont là, ils arrêtent pas vraiment de jaser, mais un moment donné, ils se font dire tch, tch, tch. Fait que OK, c'est beau, ils sont prêts à comme nous endurer 2 minutes. Et on se met à compter un après l'autre et ça clique pas. Je me souviens, il y avait 2 femmes qui étaient assises juste en face de moi, comme juste sur sa rangée, sa 3e rangée. Et ils sont là et ils ricanent entre elles. Tu comprends-tu de quoi, toi? Non, hey, c'est plate en maudit, hein? Ouais. Et moi, je bouillonne en dedans de moi. Je suis comme, mettons, le sixième à embarquer sur scène. Mais là, moi, je m'en vais m'adresser à du monde que je déteste déjà parce que ils me font péter mes plombs, tu sais. Mais en même temps, c'est vrai qu'on, finalement, c'était pas adéquat ce qu'on leur présentait. On les avait amenés comme à manière de force. Il y avait pas vraiment on n'avait pas vraiment leur consentement pour leur présenter quelque chose d'un peu poétique, par exemple. Eux, ils avaient pas envie de consacrer un vendredi soir à la beauté d'une histoire, mettons. Et c'est tout à fait défendable. Ils ont bien le droit. Le contrat avait comme pas été clair pour les spectateurs, finalement. Et à un moment donné, les deux femmes, me souviens, ils se sont dit entre elles, genre, « Hey, ça se peut-tu déranger un village pour ça? » Et je capotais. Déranger un village pour ça. Je sais pas quoi vous dire. C'était effectivement ce qu'on était en train de faire. Finalement, on était en train de vraiment déranger un village avec notre patente. Il y a bien d'autres villages qui en auraient profité, mais ici, c'était pas adéquat. On avait raté notre rendez-vous. Et c'était une des choses les plus blessantes que j'ai jamais entendues pour du compte. Moi, je me souviens, j'ai débarqué de ce banc-là et j'ai été me sacrer à genre 26e rangée en arrière. Il y a une des conteuses qui comptait après tout ça. Quand elle est descendue de scène, elle était comme troublée par l'expérience qu'elle venait de vivre. Et elle s'est dit, je vais aller m'asseoir avec quelqu'un qui va me comprendre. T'sais, je vais aller m'asseoir avec Patrick. Fait qu'elle se redresse puis elle me cherche un peu. Je suis plus à la quatrième rangée. Je suis rendu à la 25e. Il y a un nuage noir au-dessus de ma tête. J'ai des cornes qui m'ont poussé dans le front. Puis elle fait comme, ouh, OK, ce sera pas là que ça va se passer le réconfort. T'sais. C'était top gig brune. Et je pense qu'à ça s'ajoutait l'espèce d'impression d'être à l'abattoir que on devait y aller un après l'autre. C'était comme, c'est tel que tel le passé à guillotine, s'il y a juste toi, mais si t'es le sixième, il y a une espèce d'appréhension qui se bâtit, qui vient quand même bonifier ton expérience de la guillotine. Tout d'un coup, t'as six fois perdu la tête. T'sais. Et c'était un peu ça, ce petit feeling-là, dans ce beau village-là. Et ma dernière royale gig brune, elle s'est passée il y a quelques années, j'avais un festival qui m'avait approché. C'est pas un festival de contes, mais qui présente différentes disciplines artistiques et qui m'ont dit « On aimerait ça présenter du conte, on a entendu parler de toi, puis ça serait le fun, puis on pense que ça pourrait se démarquer dans l'offre. » Et ils jouent un peu de violon. Le seul problème, c'est que de un, c'est loin, puis de deux, c'est pendant ma saison de contes. Mais ils insistent, et puis en beurre épais, on va mettre un pianiste avec toi pour t'accompagner, un pianiste professionnel. Et moi, en impro, j'adore faire de l'impro avec une trame sonore en arrière. Donc, pourquoi pas le faire avec du conte? Ça va être trippant, une espèce de jam où est-ce que lui, il module en fonction de mon conte et vice-versa, où est-ce que je ralentis mon rythme ou que j'y laisse de l'espace pour que le piano prenne plus de place. Et j'ai envie d'essayer cette expérience-là. Et ils l'ont eu. Donc, vient le moment. Moi, je trouve quelqu'un pour me remplacer. Je demande à Fano, qui est du côté nord de la Gaspésie, « Peux-tu débarquer chez nous pour deux soirs? » Parce que j'ai deux dates collées back-à-back pour faire dans ce festival-là. Et pour que ça vaille un peu la peine de se déplacer. Alors, Fano accepte et il vient, je crois, deux ou trois soirs même me remplacer. Le temps que je refasse mon déplacement, j'y confie mon spectacle, t'en prends bien soin, les guimauves sont là, le feu est là, les salles de bain sont là, à telle heure tu couches les enfants. Et moi, je pars. Et j'arrive sur place. Moi, dans ma feuille de route, j'avais mon horaire, mes deux plages horaires où je devais compter et l'adresse. Donc, je me rends sur place et je sais qu'il y a des spectacles un peu partout, dans des places publiques, dans des parcs, dans certains bâtiments, dans des salles de spectacle. Et je me rends, moi, sur mon petit Google Maps, à l'endroit qui m'est donné par mon adresse. Et lorsque je me stationne, je découvre que je suis dans un foyer de personnes âgées. Et moi, je suis pas fan de foyer de personnes âgées. Il y a du monde qui adore ça. Et les contes, ça peut être intéressant parce que des fois, tu vas raconter des histoires qui se déroulent à une autre époque qui était la leur. Alors, ça réfère à quelque chose de connu pour eux. Puis tu le permets, ce voyage-là, dans le souvenir. Il y a mille raisons d'aimer ça. Mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça d'avoir... J'ai été compté dans des résidences où il y avait des personnes qui étaient pas autonomes du tout. Ce rapport-là, ce contact-là que j'ai eu, ce contexte-là qui sent particulier, qui est très hospitalier. Hospitalier, mais dans le sens d'hôpital, là, pas dans le sens d'accueillant du tout. Mais bon, j'ai dit oui, et il est trop tard, je suis là. Et fait que je me rends à l'intérieur et je trouve la personne ressource. Salut, moi c'est Patrick, est-ce que vous pouvez me dire c'est où que ça se passe? Ah oui, bon, parfait, ça se passe dans 20 minutes. Le pianiste est déjà arrivé, on a installé le piano et on découvre la salle de spectacle qui, en fait, sera ce midi la cafétéria. On va compter tout le long du lunch. Et je vous donne un petit habillage sonore de la patente. Un peu n'importe quoi. Tiens, ça. Puis ça, tiens. Ah! Et on s'installe pour compter, pour faire un spectacle dans la cafétéria où les bénéficiaires du foyer de personnes âgées ont 2 heures pour venir chercher le repas à chaque jour. Alors, tu peux venir à midi comme tu peux venir à 2h moins quart. Il n'y a pas de trouble. Viens au moment où tu as besoin de manger. Et ce midi, ben, de telle heure à telle heure, en même temps que tu viens manger, c'est génial. Tu vas pouvoir écouter un spectacle de conte avec un pianiste en arrière. Sauf que la salle est faite sur le long. Nous, on est à un bout, à côté de la porte d'entrée. Et à l'autre bout, tu as le comptoir de cafétéria où tu pognes ton plateau, tes patates pilées, resserre-moi un thé chaud, s'il vous plaît, puis les millefeuilles, puis en ouais par là. Et ils ont le rack de vaisselle où est-ce qu'ils servent eux-mêmes les ustensiles, puis ils vont s'asseoir aux tables pour manger. Mais les tables, c'est des grandes tables de cafétéria qui sont mises sur le long, elles également. Donc, si quelqu'un qui est assis là veut écouter le spectacle, il faut qu'il l'écoute de travers. Il y a son assiette devant lui, il y a son collègue de foyer de personnes âgées en face de lui, mais à droite, complètement au bout, il y a le compteur avec son pianiste qu'on voit à moitié pas et qu'on n'entend surtout pas. Parce que ça jase, parce que ça grogne, ça se plaint, il y a le bruit de la vaisselle, il y a du monde tout le long qui ouvre la porte. Ils font comme « Hey, qu'est-ce qui se passe ici? » Ben, j'arrête le spectacle puis je lui dis « Il y a un spectacle de conte. Mais si t'es juste venu pour manger, va te chercher ton millefeuille, il n'y a pas de trouble, on voudrait pas trop te déranger. » Tu sais. Oh. Le pire setup de compte de toute ma vie. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ben, sur ma feuille de route, moi, j'ai 2 dates exactement à même adresse. Alors, une fois que j'ai eu fini de compter, ben, je savais que demain, j'allais remanger de la même soupe. Ça a été une expérience catastrophique. Et moi, je la faisais en sachant que j'avais laissé derrière moi un des plus beaux contextes de compte que je connaisse, c'est-à-dire la scène que j'ai créée à Carleton. Moi, pour 3 soirs, il y a Fano qui va compter à des touristes qui sont en vacances avec le petit verre de vin qui sont là avec le coucher de soleil autour du feu, à triper puis à dire « Hey, t'as-tu vu les oiseaux-là? » Puis « Ah, c'est le fun du conte, on essaie ça. » Puis à avoir ce sentiment d'avoir une audience qui est collée, qui est de proximité. Et moi, je suis là avec mes pots de pilule à raconter à du monde qui n'ont rien demandé. Ma plus belle gig brune à vie. Alors voilà pour mon épisode sur les gigs brunes. C'en était quelques-unes, mais bon, j'ai 12 ans de carrière derrière la cravate et probablement au moins le double ou le triple devant moi. Fait que j'imagine que je pourrais, dans 30 ans, vous refaire un autre épisode avec mes nouvelles gigs brunes parce que même avec l'expérience, j'imagine qu'on n'est jamais à l'abri de ça. Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam Gagnon. Et à tout le reste, ben, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boralex.